Chers frères et sœurs, donc nous voici entrés dans ce temps de carême que nous voyons, je ne sais pas pour vous, mais arriver souvent avec un petit peu d'appréhension parce que normalement on fait quand même des efforts pendant ce temps-là, on fait des sacrifices, voilà. Et aujourd'hui donc pour commencer, pour nous mettre vraiment en condition, donc l'Église nous offre cet évangile sur les tentations de Jésus et ce magnifique récit de la Genèse à propos du premier péché. Alors je vais surtout commenter en quelque sorte ce récit de la Genèse qui est vraiment l'œuvre d'un théologien qui décrit, on pourrait dire, les rouages de la tentation. Alors je vais essayer de retenir trois éléments. D'abord, on voit qu'il y a un certain glissement dans la pensée d'Ève. Ça sera la première chose. Après, on voit aussi qu'il y a comme une digue à un certain moment qui se rompt. Et enfin, la chute dans tous les sens du mot. Alors d'abord, il y a un certain glissement. Alors le serpent commence par son discours en disant « Alors, Dieu vous a dit, vous ne mangerez le fruit d'aucun arbre du jardin ?» Alors c'est évidemment faux. Et il commence par caricaturer la volonté de Dieu, il fausse déjà un peu les perspectives, et en toute bonne foi, Ève dit, mais non, c'est pas du tout ce que Dieu nous a dit. Il nous a dit, nous mangeons les fruits des arbres du jardin, mais pour celui, nous mangeons tous les arbres, autrement dit, mais il y en a un où on peut pas. Pour celui qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Alors, si vous avez suivi attentivement, ou si vous avez votre prière en église, il y a déjà un petit quelque chose qui est faussé dans la manière de voir de Ève. Quel est l'arbre qui est au milieu du jardin? Vous pouvez regarder votre texte. Au début, ce qui nous est dit, au début du texte, il y avait aussi l'arbre de vie. Au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Celui qui est au centre, c'est l'arbre de vie, celui auquel ils peuvent aller chercher les fruits et puis vivre. Mais l'arbre du bien et du mal, il est dans l'Éden, mais on ne sait pas très bien où il est. Mais déjà dans sa réponse, Ève, pour celui qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas. Déjà, il y a un glissement qui s'est opéré. Il me semble que c'est une première chose intéressante que nous pouvons retenir. Là, tout le champ de sa conscience commence, on voit ses yeux là, elle ne voit plus que cet arbre-là, et du coup elle le voit au centre du jardin, mais il est pas au centre du jardin, il est au centre du champ de sa conscience, on pourrait dire, mais pas au centre du jardin. Et pour nous, le péché, ça commence souvent par un déplacement du regard. Ce qui devrait être au centre de notre contemplation, de notre attention, devient comme marginalisé par rapport à autre chose qui vient comme capturer toute notre attention. Et alors on ne voit plus que ça. Ça peut être par exemple, il y a une personne, on commence à ne plus voir qu'elle, alors que on commence notre épouse ou notre époux, ou nos enfants, tout ça, tout ce qu'on a pu faire d'intéressant, construire, vient en périphérie et il n'y a plus que cette personne qui devient comme au centre, ou ça peut être d'autres choses, hein, ça peut être la bouteille qui devient au centre et tout le reste, quelque part, devient périphérique, marginal. Ça peut être aussi tout ce qui est dans les moyens de communication numérique, tout ça. Alors ça capture notre attention et tout le reste passe au second plan, devient marginal. Alors ça, c'est la première chose. Dans l'attitude d'Ève, on voit qu'il y a un déplacement. Elle voit ce qui est premier dans le champ de sa conscience et ce qui lui manque, on pourrait dire, ce qu'elle ne peut pas faire. Et elle ne voit pas ce qu'elle peut faire, ce qu'elle a. Et dans notre vie aussi, quelquefois, c'est le premier glissement, on pourrait dire, qui s'opère. Et alors pour nous, ce temps de carême, ça peut être un premier élément, ça peut être d'abord de prendre conscience de ce que nous avons, de ce qui nous est donné, de s'émerveiller déjà de ce que nous avons, de savoir rendre grâce, de savoir faire un peu de louange, s'émerveiller. La tentation a beaucoup moins de prise sur quelqu'un qui est dans la joie et qui sait apprécier tout ce qui lui est donné que devant le grincheux qui se plaint toujours de ce qui lui manque. Là, il est sûr de la tentation aura beaucoup plus de prise sur lui. Voilà. Ça, c'était le premier point. Vous suivez toujours, vous ne dormez pas. Bon, il y a un peu de fraîcheur ici qui nous aide. Voilà. Alors, deuxième point. On voit qu'il y a, à un certain moment, il y a comme une digue. Il y a comme la rupture d'une digue, on pourrait dire. C'est l'image qui me parle le plus. Et du coup, le désir, elle ne peut plus le contrôler. Et on voit un lien étroit dans ce passage de la Genèse entre le soupçon jeté sur Dieu et la montée du désir d'Ève, qu'elle ne peut plus contrôler à un certain moment. Tant qu'Ève reste convaincue de l'amour de Dieu à son égard, elle garde une certaine maîtrise, on pourrait dire. Mais à un certain moment, donc, on voit Satan, le serpent, qui jette une contre-vérité, qui jette le soupçon. Ah, non, pas du tout. Vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Ça, c'est un peu comme une promesse électorale, hein, parce qu'après, vous verrez ce qui arrive à la fin. Bon. En tout cas, il y a une contre-vérité, et surtout, Satan jette un soupçon. Il y a comme une faille qui se crée dans cette conviction qu'elle avait jusque-là. Ève, pour l'instant, elle avait confiance en Dieu. Elle était heureuse avec Adam, voilà. Mais là, il y a comme une brèche qui s'introduit. Mais t'es si sûr que tu dois avoir confiance en Dieu ? Non, non. Si t'as donné cet interdit, c'est qu'il est un peu jaloux, il a peur. Il veut préserver, garder un peu ses prérogatives. Il a peur que tu... Non, non, il n'est pas désintéressé comme tu le pensais, le bon Dieu. Alors là, on voit quelque chose qui est un peu troublé. Dieu apparaît comme un concurrent, alors que pour l'instant, ce n'était pas du tout un concurrent, c'était quelqu'un qui l'aimait. Et alors, Ève est entamée dans ses convictions. Et à ce moment-là, c'est juste après, la femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il avait un aspect agréable, qu'il était désirable, puisqu'il donnait l'intelligence. On voit qu'il y a comme la... Il y a une brèche et à ce moment-là, le désir, elle ne sait plus le contenir, ce désir qui l'habite. Et son émotion, à ce moment-là, c'est son émotion qui devient le critère de vérité. Elle ne peut plus prendre de distance par rapport à son émotion. Ce qui est important de comprendre, il me semble, dans la tentation, c'est qu'on ne fait jamais le mal pour le mal. On fait le mal... parce qu'on y voit un certain bien, quelque chose qui, oui, désirable. Ève n'a pas fait le mal pour le mal. Elle a vu qu'il y avait quelque chose de savoureux, d'agréable, de désirable dans ce fruit, et du coup, elle l'a pris. Le problème n'est pas de faire le mal pour le mal, c'est de se tromper de bien. C'est plutôt ça, la question. Ah, ça devient le bien sublime, ultime, ce fruit, et elle passe à côté du vrai bien. Et c'est ça justement la tentation, c'est une, on pourrait dire, quelque chose qui est comme bouleversé dans la hiérarchie du bien, quelque chose qui n'est pas si bien que ça, passe au-dessus de tous les autres biens et du bien fondamental. Alors pour ça, il me semble, pour ce point où on voit que la digue, il y a comme cette rupture d'une digue. Alors, je pense qu'on a besoin de former sa conscience, d'entretenir ses convictions, pas simplement d'un point de vue intellectuel, mais aussi dans la prière, de ne pas se laisser entamer en quelque sorte cette conviction profonde de cet amour de Dieu. Sinon, à partir de ce moment-là, c'est vrai qu'elle a, elle peut plus endiguer ce désir fort qui l'habite. Bon, ça, c'était le deuxième point. Et le dernier point, donc, c'est la chute. Tous les sens du mot, c'est pas simplement la chute de l'histoire, voilà où on en arrive, mais elle tombe vraiment. Donc, elle prit de ce fruit, en mangea, mais elle ne s'arrête pas là. Elle en donne aussi à son mari. Et c'est étonnant que, habituellement, on n'aime pas pêcher tout seul, quelque part. On aime en faire profiter les autres. Bon, c'est quelque chose d'un peu étonnant dans les revendications du lobby gay, par exemple, ils veulent faire profiter quelque part du vice. Dans notre société, c'est quand même, on nous accuse de prosélytes quand on parle de Dieu, c'est quand même honteux de parler de Dieu sur la place publique, ça ne se fait pas. Mais bon, d'exhiber des choses, voilà, ça on ne gêne pas parce que, voilà. Mais on veut faire profiter les autres de notre vice parce que c'est un peu... C'est toujours d'être tout seul dans son péché, c'est quand même un peu ennuyeux. Et alors, à ce moment-là, donc, c'est la chute, et alors leurs yeux s'ouvrent. Alors les promesses, qu'est-ce que... Vous vous rappelez des promesses du serpent ? Il avait promis, vos yeux vont s'ouvrir, bien sûr, et quand vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux. Vous connaîtrez le bien et le mal. Et alors, voilà ce qui est dit là. Leurs yeux, à tous deux s'ouvrir, ils se voient comme des dieux. Ils connurent qu'ils étaient nus. Entre la promesse et le résultat, il y a un décalage étonnant. Ils pensaient accéder à la gloire et à la puissance, et là, ils se voient tout vulnérables, ils doivent vite se cacher. Ils ont honte. Alors, c'est bon pour nous de réentendre, vous pourrez relire cet admirable récit de la Genèse, pour aussi c'est apprendre à voir comment ça se passe en nous concrètement. Parce que les tentations ne manquent pas. Mais alors, si la liturgie nous donne ces textes, ce n'est pas pour nous faire déprimer, parce qu'il y a aussi d'autres passages. Et en conclusion, je voudrais vous donner deux pistes. La première, c'est que c'est possible de résister à la tentation. Et c'est pour ça que l'Église nous donne cet évangile de Jésus qui est vainqueur dans la tentation. C'est possible. Et si Jésus a vaincu la tentation, c'est pour nous donner la force aussi de pas succomber à la tentation. Vous savez bien que dans le sport, le mental a beaucoup d'importance. Si vous partez battu, ben, de fait, vous serez battu. Mais c'est pareil dans la tentation. Ne croyez pas que la tentation est trop forte. C'est Saint Paul, je crois, qui nous dit que Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Avec la tentation, il vous donnera le moyen d'en sortir et la force de la supporter. Donc, de croire, première chose, donc, croire que la tentation n'est pas insurmontable. Encore faut-il prendre les bons moyens. Deuxième chose, en guise de conclusion, c'est que peut-être que, et certainement parce que nous ne sommes pas l'Immaculée Conception, peut-être avez-vous déjà succombé à la tentation. Mais une espérance nous est donnée. Alors, nous le voyons dans le psaume. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Voilà, Dieu veut nous donner cette joie d'être sauvé. Même si nous avons succombé, un salut nous est offert. Et dans l'Épître aux Romains, nous voyons qu'il n'y a pas de commune mesure entre le péché et la grâce. Bien sûr, peut-être, et c'est déplorable, si tu as péché, mais la grâce t'est donnée, et la grâce est plus puissante que le péché. Demandons cette grâce, justement, d'entrer dans ce carême avec cette conviction plus forte que nous pouvons être fidèles à Dieu et que l'amour de Dieu nous est offert. Amen.